l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un album historique du regretté Manu Dibango. Il s'agit de Sun Explosion, paru en 1978 et réédité récemment grâce aux efforts du label Soul Makossa qui depuis 2018 réhabilite ce patrimoine sonore imposant, trop longtemps éparpillé sur différentes maisons de disques et désormais préservé légalement et pour longtemps. Il se trouve que cet héritage musical va nourrir l'émission du jour, car les anciens compagnons et partenaires du maestro ont décidé de faire vivre sur scène et sur disque ce répertoire enthousiasmant. Nous avons donc convié trois amis fidèles de Manu Dibango à notre micro, Claire Diboa, Julien Agazar et Philippe Daven. Messieurs, madame, soyez les bienvenus.
Bonjour.
Bonjour et merci.
Bonjour Dieu.
Vous êtes respectivement manageuse, pianiste et ingénieur du son du Manu Dibango Orchestra, une formation que vous souhaitez pérenniser au fil des mois et des années. À quel moment cette idée vous a paru évidente et nécessaire, Claire Diboa?
Alors, l'idée a commencé à germer avant que Manu ne décède. Il en parlait régulièrement quand on était en concert, mais bon, on ne s'attardait pas dessus. Et quand il est parti, c'était une évidence que le Manu Dibango Orchestra remplace le Soul Makossa Gang. Et puis, il donnait toujours l'exemple du Count Basie Orchestra, dans tous ces grands ensembles qui continuent, même si le leader n'est plus là. Donc, pour nous, c'était vraiment une évidence qu'on continue.
Manu Dibango a eu plusieurs formations au fil des décennies, le Soul Makossa Gang, le Maraboutik Big Band, aujourd'hui le Manu Dibango Orchestra. Est-ce que ces différents groupes ont une musicalité, une humeur, une intention bien distincte, Julien Agazar?
Alors, moi, je dirais oui.
Merci.
Elles sont unifiées par l'acteur principal du groupe, c'est-à-dire Manu Dibango. Mais en fait, le Maraboutik, c'était déjà un big band. Donc déjà, ça change complètement du groupe de base. Donc effectivement, on joue un autre répertoire, il y avait une autre dynamique. Oui, dans les sens même, le fait de changer les noms des groupes comme ça, c'était une manière de s'approprier aussi un nouveau répertoire, de dire qu'on était sur une autre ligne. Je pense que c'était ça.
Et aussi des formations différentes.
Oui, des formations différentes, voilà.
C'est-à-dire des formations où le chant était mis en avant, d'autres formations qui étaient essentiellement instrumentales et donc qui méritaient des noms différents, quoi.
Philippe Daven, puisque vous avez pris la parole, vous avez eu le loisir de travailler très longtemps avec Manu Dibango. Est-ce que derrière ce sourire jovial qu'il avait, il y avait un Manu Dibango exigeant, rigoureux?
Très rigoureux, bien sûr, et très impressionnant par son énergie. Moi, je l'ai rencontré en 85. Je sortais plutôt du punk, du rock. Et ce qui m'a séduit en lui, c'est son énergie. Il avait une énergie débordante sur scène, hein, je parle. Et évidemment, c'est quelque chose qui impressionne quand un musicien, on sent qu'il met vraiment toute sa force dans sa musique sur scène. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi.
Je me souviens avoir assisté aux répétitions, grâce à vous, Claire, de son spectacle à l'Olympia pour ses 80 ans. J'ai découvert un Manu Dibango très précis, pointilleux. Est-ce que vous confirmez, Claire ?
Je confirme. Julien aussi peut le confirmer parce qu'il changeait des arrangements tout le temps. Il était rarement satisfait. Et c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Donc c'est vrai que tous ceux qui venaient le voir le trouvaient toujours au milieu de ses partitions en train de faire, de défaire, de refaire et d'essayer de trouver la bonne note à chaque fois. Donc je ne sais pas si c'était la note bleue qu'il cherchait.
Non, mais l'Olympia c'était particulier quand même. Ouais. L'Olympia c'était quand même un truc particulier.
Pourquoi ?
Parce que c'était, bon déjà il y avait ses 80 ans, qu'il y avait l'Olympia déjà, c'est quand même un lieu historique. Lui-même il a fait un album, je crois, je ne sais plus en quelle année, c'était sorti dans les années 90. Et il nous parlait souvent qu'il avait vu Sidney Bechet arracher les sièges, ce truc-là, la légende de l'Olympia, le jazz, ces années-là. Et donc, quand on était retourné là, à cette époque, précis, oui, mais très, très exigeant, parce qu'il voulait vraiment, il y avait le big band, il voulait qu'on joue certains morceaux qu'on jouait peu, donc il fallait vraiment aller bosser au cordeau et qu'on soit précis, quoi. Donc, dans ces cas-là, il était plus exigeant qu'à l'habitude, on va dire.
Donc, ça veut dire qu'en fonction de l'enjeu, il pouvait être
Oui, clairement, parce qu'il y avait le groupe de base, on était 6 ou 7 selon les années. On a été un groupe qui a oscillé entre, on va dire, 6 et 9 à l'année. Et sur des événements particuliers, on était plus nombreux. Il y avait le Big Band, il y avait le Quatuor à cordes sud-africain, il y avait la chorale gospel en Angleterre. Il y avait quelques trucs comme ça, le symphonique, évidemment. Dans ces cas-là, on sortait un peu de notre zone de confort. Il fallait resserrer un peu les boulons, quoi.
Je l'avais également vu répéter avec vous. Le safari symphonique au festival Jazz à Vienne, ce n'était qu'une balance, mais son souci du détail m'avait marqué jusque dans les mots qu'il allait prononcer devant le public, Philippe Daven.
Moi, je pense que c'est normal. Enfin, beaucoup d'artistes font ça pour ne pas être perturbés dans le déroulement de leur concert, et d'autant plus là où il y avait un enjeu important, parce que l'orchestre symphonique étant très lent à démarrer, enfin, il y avait un rythme à donner, quoi. Mais pour revenir sur son exigence, pour lui, ce qui était hyper important pour les musiciens, c'était l'attention qu'il portait. C'est-à-dire qu'il faisait exprès pendant les concerts, il se retournait, il disait « solo », alors que ce n'était pas prévu, ou il changeait de morceau. Il voulait toujours que les musiciens soient à l'affût et que ça ne soit pas pépère, confortable. Non, il était toujours là pour inciter les gens à aller plus loin. Et ça, c'est une très bonne qualité.
Ça veut dire qu'il essayait de mobiliser ses musiciens, ou est-ce que c'était aussi une manière pour lui de se rassurer ?
Je ne saurais pas dire, je pense que c'est, en tant que musicien, moi je peux dire ça, c'est un doux mélange. Il y a l'instant, il y a l'envie d'en découdre, l'envie de rigoler parfois, donc c'est tout un peu mélangé. Moi, des fois c'était très complice, il nous regardait, il était solo avec un clin d'œil, et des fois c'était, il y a un problème avec son sac, ça il fait « ah, solo », parce que là c'est la galère, quoi. Mais c'était souvent pour se mobiliser, puis surtout pour rester dans une dynamique de groupe où on se repose pas, effectivement, il a besoin de contact. C'est du jazz, hein, ça reste très ouvert quand même, sa musique, entre guillemets.
Claire, vous qui l'avez connu hors de scène, est-ce qu'il était aussi tranquille qu'il voulait bien le montrer ?
Moi, j'ai toujours connu Manu tel qu'on le voyait, c'est-à-dire que quand il y avait des coups de gueule, ben, ça partait. Je l'ai rarement vu avec un double visage, en fait. Ce qui est différent, c'est quand il retrouvait ses musiciens, parce qu'il avait vraiment une grande complicité avec ses gars, donc dès qu'il se retrouvait, là, il changeait. Il aimait bien cet esprit un peu de... C'est pas la cour, hein, c'est juste de se retrouver ensemble et puis de communier ensemble. Il adorait se retrouver avec ses musiciens. Et donc là, tout d'un coup, il changeait. Je voulais aussi revenir sur ce que disaient Julien et Phil par rapport à la scène. Il était très attentif au public. Donc la liste, la setlist de départ était rarement la même à la fin du concert parce qu'il captait la réaction du public et il changeait au fur et à mesure. Donc, quand il sent que les gens sont un peu endormis, paf, il change. Ou simplement, il y a une idée qui lui passe par la tête, paf, il le fait, quoi.
Donc, ça veut dire qu'une liste de titres n'était pas définitive à partir du moment où il montait sur scène.
Moi, j'ai vécu une dizaine d'années où il n'y a jamais eu de liste. Les musiciens montaient sur scène, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer. Ça, c'est fort. Et à un moment, quand même, j'ai dit, bon, ce serait pas mal. Donc, il a repris quand même le principe des listes, mais ça a duré longtemps.
Claire Diboa, vous aviez eu la gentillesse de nous confier quelques extraits de cette prestation à Vienne en France en 2019 avec l'Orchestre National de Lyon. Et je vous propose donc de faire un bond de 4 ans en arrière. Nous sommes le 12 juillet 2019 au Théâtre Antique de Vienne. Waka Juju, le Banu Dibango Orchestra et l'Orchestre National de Lyon à Vienne en juillet 2019. Nous sommes aujourd'hui avec Claire Dibois, Julia Agazar, Philippe Daven, trois des complices de Banu Dibango avec qui nous évoquons le maestro, mais aussi l'avenir de son orchestre en 2024, 2025, 2026. J'ai ouï dire qu'un concert à Londres se profile pour février 2024. Ça se passera où et quand, Claire Dibois?
Alors ça se passera au Ronnie Scott Club. C'est un des clubs préférés de Manu et des musiciens aussi, parce qu'on a vécu des moments fabuleux dans ce club. On faisait des résidences carrément, on y allait des fois 15 jours. C'est arrivé qu'on y passe 15 jours. Bon, ben, le Covid est passé par là, les choses ont changé. Et, donc là, quand je leur ai fait la proposition de recevoir l'orchestre pour un tribute, tout de suite, ils ont dit oui.
Quels sont les grands événements auxquels vous avez participé et que vous garderez longtemps en mémoire, Philippe Daven, puisque vous êtes le doyen, en quelque sorte?
Le doyen, mais qu'est-ce que... Vous avez tout vu, tout ça. Non, un des plus grands pour moi, ça restera de toute façon la passation de Mandela à Nbeke, un concert gratuit avec 300 000 personnes au pied du Parlement sud-africain. Il y avait des dizaines d'artistes, certains même qui n'ont pas pu passer tellement c'était énorme. Voilà. Mais nous, on avait fait un concert et c'était important. Quoi. Mais en Afrique du Sud, deux ans avant, on avait été aussi les premiers à jouer après l'apartheid et faire une grande tournée en Afrique du Sud. Donc ça aussi, c'était important symboliquement. Et comme Manu était vraiment très intéressé par la géopolitique, notre présence là-bas l'avait vraiment ravi, quoi.
Ce n'était pas qu'un musicien, c'était quelqu'un qui avait des convictions.
Non, d'ailleurs, il m'avait dit plusieurs fois que s'il n'avait pas été musicien, il aurait bien aimé être journaliste.
C'est vrai.
Ouais. Oui. Puis il lisait tous les journaux, il pouvait faire une revue de presse.
Manu, c'était quand même, on n'était pas loin de 200 euros par semaine.
D'achat
de journaux, de revues, de magazines, de tout. Ouais. De tout, de la musique. Il allait toujours dénicher le petit journal qui vient de sortir, le petit magazine. Il achetait de tout. Et quand on était sur la route, bah nous, on n'achetait pas, on savait où aller se fournir.
Voilà.
Et quand on ne le trouvait pas dans une gare ou dans un aéroport, on savait qu'il fallait chercher dans... C'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois. Le train allait partir, on ne savait pas où il était.
Vous me disiez hors antenne, Philippe Daven, que Manu Dibango était une forme d'ambassadeur à travers la planète, non officiel, puisqu'il n'a jamais été diplomate. Mais est-ce que la musique n'est pas finalement une forme de diplomatie?
Oui, bien sûr, mais je crois quand même qu'il avait un passeport diplomatique malgré tout. Oui, il allait bien au-delà de la musique. Et pour lui, c'était un médium, la musique, mais son discours allait plus loin, en tant qu'Africain, bien sûr, mais en tant tout simplement que... homme sur la terre, ayant fait le tour du monde des dizaines de fois.
Ouais, et puis Manu savait très bien ce qu'il représentait. Il avait complètement conscience de qui il était. Et il n'en abusait pas, il n'en jouait pas. Et au contraire, je trouve qu'il était dans une bienveillance à l'égard du monde en général, assez exemplaire. Quoi. D'ailleurs, non, moi, j'en veux pour preuve le film, là, qui a été le documentaire, qui suit un peu, tu sais, sur les 5 dernières années, entre ses 80 et ses 85 ans. Dans ce film, on voit beaucoup plus Manu hors scène que sur scène.
C'est vrai.
Moi, ça m'a intéressé parce que c'est vraiment plein de moments que j'avais jamais vus. Et ça m'a rappelé la manière dont il accueillait les gens, dont les gens le recevaient, dont tout ce qu'il représentait pour eux. Et c'était assez fascinant quand même.
Est-ce que vous l'avez accompagné lors des différents sommets de la francophonie, dont Rio par exemple en 2016?
Alors nous on était pour la musique, mais je ne l'ai pas accompagné dans les conférences ou dans les débats, hein. On était là-bas. Ouais.
Ça lui tenait à cœur, Claire Dubois, ce genre de sommet?
Oui, parce qu'il pensait toujours qu'il pouvait faire changer des choses. Bon, il faisait beaucoup d'apartés, hein, avec des personnalités qu'il rencontrait, des politiques qu'il rencontrait, et il leur disait face à face ce qu'il pensait. Moi, j'en avais des échos après, mais c'est quelqu'un qui aimait des apartés. Mais la francophonie, oui, ça lui tenait à cœur. Alors, il disait toujours qu'il était partisan d'une francophonie décomplexée et dans la diversité. Il ne voulait pas que ce soit franco-français, avec des expressions complètement françaises. Donc, il y avait déjà tout cet apport culturel de tous les pays et l'apport linguistique aussi, qui nourrissait un peu la francophonie. Donc, c'est pour ça qu'il disait souvent une francophonie décomplexée.
Quel était le programme des festivités lorsqu'il se rendait dans ce genre de sommet? C'était un concert, un discours, des ateliers? Comment ça se passait sur place?
Non, c'était souvent, il participait à des colloques, ce genre de choses. Il faisait beaucoup de représentations aussi. Bon, à Rio, par exemple, où il était grand témoin, il y a eu toute une année de préparation et des allers-retours à Rio parce qu'il y avait toute la convention entre la francophonie et le comité d'organisation a préparé, donc il y a beaucoup de choses. Et lui donnait son avis. Il intervenait sur plein de points. À Rio, il fallait qu'il vérifie que la langue française était bien représentée, etc. Et quand ça n'allait pas, il le disait, il faisait changer. Jusqu'au slogan de la francophonie à Rio, c'est lui qui l'a choisi, il a choisi le logo. Non, il s'impliquait vraiment, il était très impliqué.
Et puis, il y avait des concerts, évidemment, auxquels il participait. Et j'imagine, vous, Philippe Daven, que vous avez conservé tous ces moments dans un disque dur très bien protégé.
Absolument. Absolument. Je suis un peu archiviste avec tous les artistes avec qui j'ai travaillé. Oui, oui, j'ai tous les supports. J'ai des cassettes, j'ai des mini-disques, des DAT. Des bandes magnétiques. Mais il y a effectivement des concerts qui pourraient mériter d'être gravés en vinyle. Mais aussi, j'avais un projet avec Manu avant qu'il disparaisse, c'était de faire peut-être un album avec uniquement des morceaux qui correspondaient à des moments importants, le concert dont j'ai parlé tout à l'heure en Afrique du Sud, mais d'autres aussi qu'on a pu faire en Allemagne de l'Est ou je sais pas, dans des lieux ou en Algérie. Souvent, on était le dernier groupe à venir, comme en Algérie dans les années 90, et le premier à revenir après.
Donc, ça serait des albums liés à la géopolitique?
Peut-être, il peut y avoir ça.
Une face A géopolitique, puis la face B, lieu inédit, insolite.
Ah, oui, oui, parce qu'il y a aussi...
On parlait de l'Apollo de Harlem, c'est des lieux, le Stade de France, voilà, l'Olympia...
Voilà, donc on reviendra, je pense.
En tout cas, depuis que le label Soul Makossa veille sur le patrimoine légal de Manu Dibango, nous redécouvrons ses anciens albums remasterisés, dont Afrovision, en 1976.
Big Blue.
Big Blow, Manu Dibango en 1976, c'est une réédition du label Soul Makossa. Julien Agazard, oui. Est-ce que le fait d'être aux côtés de Manu Dibango, c'est une expérience particulière ou c'est une aventure de plus? Parce que vous avez rencontré beaucoup d'artistes tout au long de votre carrière.
Absolument. Non, Manu, oui, c'est quand même une page de la musique, quoi. C'est un monument. Donc même moi, petit blanc, parisien... Comme on l'imagine, je savais qui était Manu, j'étais déjà dans la musique un peu world, jazz et tout ça, donc ah ouais, c'est plus qu'une expérience, c'est une tranche de vie, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise.
Qu'est-ce que vous pensez lui avoir apporté?
J'espère ma bonne humeur, mon talent et un peu de fidélité qui font qu'on a pu être compagnon de voyage et de musique pendant des années. Moi, Manu, c'est vraiment l'homme, le musicien avec lequel j'ai plus joué.
D'accord.
Je crois qu'on a fait plus de 800 concerts, je sais pas combien on en a fait, même 1000 peut-être. Oui, je pense que j'ai apporté. À la fin, il y avait quand même une espèce de belle complicité entre nous, musicale en tout cas. Humainement, on avait notre rapport aussi qui était, on le disait avec Philippe, assez... Au début, c'était pas évident avec Manu, mais j'ai mis du temps à m'approcher aussi, à accepter.
Et lui, que vous a-t-il apporté?
Par où je commence? Alors, tellement de choses. Après, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais effectivement, la bienveillance, la générosité, la... voyager, apprendre mon métier. Parce que moi, je suis rentré dans le groupe, j'avais 24 ans, quoi. Donc, ouais. J'étais quand même un peu jeune.
Et vous êtes devenu son directeur musical.
Voilà, je suis rentré apprenti, j'ai fini directeur musical, j'ai monté des échelons.
Ça veut dire quoi, directeur musical?
Alors voilà, ça fait très pompeux, très comme ça, mais il y avait un petit rôle quand même. Parce que, bah, entre autres, Manu dirigeait quand même pas mal son orchestre, faut bien le reconnaître. Et il écrivait ses parts, tout ça, mais par contre, effectivement, il a besoin des fois de déléguer un peu, parce qu'il venait pas toujours aux répétitions. Il avait besoin de mon avis. Donc le directeur musical, c'était plus un avis consultatif. On s'appelait souvent avant les répétitions, avant les grands concerts, avant des choses comme ça. Ou même dans la semaine, il m'appelait, tiens, il avait une idée. Il me dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? On ferait ça sur ce morceau? J'ai envie de faire ça. Ou il me posait la question, parfois il me posait pas la question. Il me dit, on va faire ça. Donc il fallait que j'y réponde, tout ça. C'était ça mon rôle, quoi.
Mais quand on se retrouve face à un chef d'orchestre comme Manu Dibango, qui est un chef d'orchestre imposant, avec une longue carrière et des connaissances musicales assez étendues, quelle est votre marge de manœuvre en tant que directeur musical?
Eh bien, ça dépendait des jours et des formules. Il y a parfois, c'était nul et non avenu. Ouais. Mes requêtes finissaient dans la poubelle. Et parfois, c'était, alors que j'étais pas spécialement sollicité, ils se retournaient, ils me disaient, trouve-moi une idée, maintenant, c'est ça, on va faire ça, trouve le truc.
D'accord, donc ils se reposaient quand
même.
Ils
se reposaient un peu, c'est pas se reposer, mais c'était des fois un peu se challenger, là, j'ai pas d'idée, faites ce que vous voulez, ou là, j'aimerais qu'on fasse ça, on essaye des choses. Puis vous savez, quand on travaille la musique, c'est un peu quand on est en cuisine. D'un coup, c'est, il y a des jours, on est pauvre d'idées, des fois, on déborde, donc il fallait même des fois me calmer un peu. J'étais interventionniste et puis j'étais pas le seul. D'ailleurs, dans le groupe, il y a plein de musiciens qui étaient force de proposition. Il y a plein de petits arrangements qui se sont retrouvés dans ces albums qui étaient amenés par les musiciens aussi.
Donc, c'est un travail collectif.
Je pense, oui.
Ce n'est pas un chef d'orchestre et les musiciens qui suivent.
Non, non, bien sûr. C'est un travail collectif avec parfois un peu de canalisation et puis un final cut, quoi. Mmh. Quelqu'un qui tranche.
Et le directeur musical est là pour ça.
Entre autres. Je reviens dessus, mais c'est vrai que ça fait pendant 20 ans, vous sillonnez le monde avec une légende de la musique, il se passe des choses. Forcément.
Nous ne l'avons pas encore dit, mais en ce mois de décembre 2023, Manu Dibango aurait eu 90 ans. Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de lui, Philippe Daven, vous qui l'avez longtemps connu?
Sa musique, mais la personne aussi, parce qu'on a fait énormément de concerts en France et à chaque fois, les organisateurs étaient étonnés que les salles soient pleines par rapport à une musique qui n'est pas forcément... On ne faisait pas de la variété, quoi. Mais c'est parce que tous les Français le connaissaient. À travers les interviews qu'il faisait, les émissions, à travers son rire, il avait un personnage qui faisait que les gens avaient envie de le voir en concert, de l'entendre, bien sûr. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
Parfois, sans connaître sa musique.
En tant que musicien, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un personnage tellement imposant au-delà de la musique que tout le monde se rappelle de lui.
Oh oui, je pense que la façon dont il est parti, cette période-là, bon, les gens sont un peu orphelins de Manu. Quand je discute avec même des directeurs de festivals, même simplement les voisins qu'ils connaissent, il y a un besoin de Manu, il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a une porte qui n'est pas encore fermée.
Est-ce que vous pensez qu'au fil du temps et grâce à vos témoignages, l'image du saxophoniste rieur va s'effacer au profit de celle du chef d'orchestre rigoureux, Claire Dubois?
Non, je ne pense pas que ça va s'effacer parce que tout ça faisait partie de Manu. C'était aussi un universaliste et il disait de lui-même qu'il était un mélange de Vin de Palme et de Beaujolais, donc ça veut tout dire.
Un
homme de son temps, et puis qui s'intéresse beaucoup à son continent, mais qui s'intéresse aussi à tout ce qui l'entoure.
Est-ce que l'intention du Manu Dibango Orchestra est de réhabiliter son image, parfois un peu trop caricaturale ?
Caricatural, il y a que son rire qui tout peut penser.
Tout le monde en parle.
Ben oui, mais il est comme ça et ça permettait de savoir où il était à 100 mètres.
Non, mais en plus, c'était une image d'Épinal plus que caricaturale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme ça qui accompagnait. Il y avait ce côté, ce grand noir chauve à saxophone et lunettes sombres et ce grand rire éclatant. Moi, je trouve que c'est pas mal.
Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'était pas que ça.
Bien sûr. Mais il y a plein de gens qui venaient au concert sans connaître sa musique. Ils s'attachaient juste au personnage. Moi, pareil, je l'avais vu à la télé quand j'étais gamin. Moi, j'ai un souvenir de Manu, je le racontais. Quand j'étais enfant, un jour, il avait accompagné Pivot à la Grande Dictée. Ouais. J'avais peut-être, je sais pas, 9 ans, on va dire 10 ans. Je me souviens de rien de cette dictée, mais je me souviens de Manu qui était invité à la fin et qui avait pris un piano et qui avait extrait une phrase et qui avait improvisé un morceau. Et je trouvais ça génial. Voilà, c'est un souvenir marquant. Alors, il y avait un peu de musique, un peu de bonardise, un peu de rigolade. Et ça m'a suffi à ce que je me souvienne de cet homme-là 10 ans plus tard et que je le recroise. Quoi.
Comme quoi une image finalement reste et elle est utile.
Oui, mais on sent quelque chose, il y a quelque chose comme ça, c'est rayonnant.
Quoi qu'il en soit, dans cette émission, nous veillerons toujours à honorer dignement sa mémoire et son œuvre. Merci madame, merci messieurs de votre présence à nos côtés et joyeuses fêtes de fin d'année.
Merci Joe Farmer et l'épopée des musiques noires.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Manu Dibango en 2000 sur l'album du même nom. Je rappelle que le Manu Dibango Orchestra vivra en 2024 et au-delà avec des dates que nous annoncerons au fil des jours. Le premier rendez-vous d'envergure, c'est le 10 février 2024 au Ronnie Scott Club de Londres. Nous en reparlerons. Merci Claire, merci Julien et merci Philippe.
Merci Joe.
Merci Joe.
La semaine prochaine, c'est une émission ludique que nous vous proposerons pour le week-end de Noël puisque nous essaierons de dénicher les versions originales de tubes internationaux. Eh bien c'est justement le collectionneur de disques Marc Marais, ancien responsable de la discothèque de Radio France, qui passera ce réveillon à nos côtés pour évoquer justement toutes ces archives que l'on ne connaît pas forcément. Voilà. Merci à Jérémy Boucher pour la réalisation lumineuse de cette épopée mémorielle. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
Ati Simba Nambo Wai Mbo Wai Mbo Wai Binyoki Mbo Wai Engingilai Ewisi.